On continue l'étude qu'on a commencée il y a plusieurs semaines sur le Saint-Esprit, puis l'action du Saint-Esprit dans nos vies. Puis là, on a commencé à toucher la semaine passée pour expliquer un peu la survol de l'ensemble des dons spirituels que Dieu veut manifester dans l'Église. Puis là, ce soir, on va voir un des dons spirituels. Le premier qui est manifesté, qui est mentionné dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, c'est les paroles de sagesse. Là, on va voir qu'est-ce que ce don spirituel-là, les paroles de sagesse. On voit ça dans 1 Corinthiens 12, le verset 7, ça dit « Or à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donnée par l'Esprit une parole de sagesse. » C'est ce qu'on va voir ce soir. Qu'est-ce que ça veut dire, ce don spirituel-là? Premièrement, comme qu'on a vu les autres semaines antérieures, que les dons spirituels, ça sert à édifier. C'est utile pour l'ensemble des chrétiens. Quand une parole est donnée par le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler. C'est pas un humain. Même si c'est un humain qui parle, c'est quand même une parole inspirée par le Saint-Esprit. Puis quand est mentionnée cette parole-là, ça produit un effet bénéfique pour l'ensemble de tous ceux qui reçoivent le message que le Saint-Esprit donne. Puis c'est la même chose dans une prédication. Quand les prédicateurs prient pour avoir des messages, puis quand ils livrent le message pendant qu'ils prêchent, ils sont poussés par le Saint-Esprit souvent à parler, puis dans les enseignements que les gens reçoivent, ils sont bénis. La parole qu'on reçoit est bénissante, elle produit un effet bénéfique dans notre vie, à part qu'elle peut nous édifier, nous fortifier, puis nous renforcer, puis nous éclairer, puis nous donner des fois des directions. On va voir ce soir pour comprendre que dans la Bible, il parle de trois sortes de sagesse. Puis là, je vais juste les énumérer assez rapidement avec quelques versets pour voir que, pour distinguer la différence entre la sagesse humaine, la sagesse spirituelle, puis des paroles de sagesse poussées par le Saint-Esprit. C'est trois choses complètement distinctes. Premièrement, la sagesse humaine, la sagesse des hommes qu'on voit c'est écrit c'est la sagesse naturelle qui est commune à l'ensemble des humains, mais à divers degrés, parce que des hommes, humainement parlant, sont plus sages que d'autres. Mais pour comprendre un peu qu'est-ce qui se passe, on va voir qu'est-ce que la Bible dit de ces classes de sagesse-là. La sagesse naturelle, dans 1 Corinthiens 1, 21, ça nous dit, « Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu dans la sagesse de Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Dans ce passage-là, Dieu fait tout de suite une distinction. Aux yeux de Dieu, la sagesse des hommes, c'est de la folie. La sagesse des hommes est aveugle. Même si une personne est extrêmement sage aux yeux humains, par les humains, ces gens-là sont déclarés des gens sages, mais Dieu, lui, il analyse pas les choses avec le même œil. Il dit, le monde, dans sa sagesse, il a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Dieu, il a choisi un plan pour sauver le monde. Ça, c'est dans la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle de Dieu. Il nous révèle que son plan du salut est à travers la prédication de la croix. Puis ça amène les gens à la foi pour saisir le message par la foi et être sauvés par la foi. Puis dans la sagesse humaine, la sagesse humaine, même si c'est appelé sagesse, ça n'a pas de puissance ou de valeur aux yeux de Dieu. Aucune efficacité, aucune valeur importante aux yeux de Dieu. On va voir même dans d'autres passages que Dieu, il veut rien savoir de la sagesse humaine. J'ai pas sorti tous les versets, mais juste trois sur la sagesse humaine, puis ça fait déjà un bon résumé. Le deuxième verset qui nous parle dans 1 Corinthiens 1, 19, ça dit, « Aussi est-il écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Dieu est en train de parler que la sagesse humaine, ça vaut zéro, puis Dieu, il a déjà décidé, il a déjà porté un jugement sur la sagesse humaine, puis qu'il va détruire tout ça. L'homme, dans sa sagesse, il comprend pas les choses de Dieu. Puis là, il en écrit des livres pour démontrer leur connaissance, leur sagesse qui maîtrise, il pense qu'il maîtrise les sciences du monde et les révélations du monde. Mais en fin de compte, ils savent rien, puisqu'ils n'ont pas inclus Dieu dans leur révélation. Même le contraire, ils excluent Dieu. Il essaye de trouver des raisons scientifiques de pas admettre qu'il y aura un créateur. Ils vont essayer d'inventer une théorie de l'évolution. Même si c'est farci de mensonges, c'est pas grave. Pour eux autres, il y a mieux croire dans un paquet de mensonges plutôt que d'accepter la réalité, la vérité de Dieu. Dans Jacques 3, le verset 14, pour aller encore un petit peu plus loin au sujet de la sagesse humaine, ça nous dit que si les chrétiens ont dans leur cœur un zèle amer, puis un esprit de dispute, il dit « Ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, et diabolique. » Dans ce passage-là, ça dit quand une personne est toujours en train d'être animée de méchanceté, d'un zèle amer, puis à chicaner tout le monde, même si tu dis que tu es chrétien, tu connais pas Dieu, puis tu connais pas le chemin de Dieu, tu es en train de marcher dans une sagesse charnelle, humaine, charnelle, puis ils appellent ça diabolique. La sagesse charnelle, c'est diabolique. C'est un synonyme aux yeux de Dieu. Tout ce qui fait partie de la sagesse humaine, peu importe de la manière qu'on la vit ou de la manière qu'on la réagit, cette sagesse-là, Dieu appelle ça de la sagesse diabolique. Il y a d'autres passages qui nous parlent de plusieurs points sur la sagesse. Je ne voulais pas peser plus que ça, mais vu qu'on parle du sujet des paroles de sagesse poussées par le Saint-Esprit, je voulais qu'on soit clair que ça n'a pas rapport avec la sagesse humaine. La deuxième sagesse que je vais vous parler, qui nous parle de la sagesse d'en haut, la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle, si on va appeler ça de toutes les manières, celle qui vient d'en haut, c'est ça qui est important, c'est la sagesse spirituelle que l'apôtre Jacques appelle la sagesse d'en haut, ce qui vient de Dieu. On vient pas au monde avec cette sagesse-là. C'est une sagesse qu'on reçoit quand ça fait un assez grand moment qu'on vit avec le Seigneur. C'est pas en se convertissant. Bien qu'on est appelé sage de connaître Dieu, le fait de qu'on marche en relation avec Dieu, on est appelé quand même un sage. Mais la sagesse spirituelle se développe avec l'expérience de la connaissance de Dieu, mêlée avec le savoir vivre dans la vie de Dieu. Puis c'est pas automatique qu'en se convertissant qu'on sait vivre de la bonne façon avec sagesse, la sagesse spirituelle. Faut apprendre à vivre dans la sagesse spirituelle. La sagesse, en fin de compte, c'est comme le savoir vivre, le savoir faire, le savoir-faire, ça résume pas mal, mais le savoir-faire, le comprendre et le savoir-faire, pour arriver à ça, c'est de la maturité. Ça se développe. C'est pas quelque chose que t'as par miracle. Faut que t'apprennes à connaître Dieu, à connaître sa parole, puis là, tu l'appliques à ta vie, là, tu deviens mûr spirituellement. Mais c'est là qu'on peut dire t'es un sage. Quand tu as appris à mettre en pratique les paroles de Dieu. Puis là, tu vas être capable de donner de bonnes instructions, puis donner les explications, puis d'amener les gens. Tu sais, il y a un niveau de profondeur dans la sagesse. C'est pas connaître Dieu, c'est sage. Dire, je suis en contact avec Dieu, mais approfondir la connaissance de Dieu, puis la vivre, la mettre en pratique, c'est une autre dimension. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 6, ça nous dit « Cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Hein? » C'est Paul qui dit ça. Il dit « C'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. » Les parfaits, c'est ceux qui sont devenus parfaits en Jésus-Christ. Puis là, il dit « C'est une sagesse qu'on prêche. » Une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Nous prêchons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. La sagesse de Dieu est mystérieuse et cachée. Que Dieu, avant les siècles, avait destiné pour notre gloire. C'est extraordinaire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'il l'eût connue, il n'aura pas crucifié le Seigneur de gloire. Dans la sagesse de Dieu, c'est arrivé à une compréhension de savoir qu'est-ce que Dieu a comme plan, qu'est-ce qu'il a préparé. Quand tu commences à rentrer là-dedans, tu commences à être sage aux yeux de Dieu. Puis qu'est-ce qui est prêché dans les enseignements? C'est la sagesse mystérieuse de Dieu. C'est caché, ça, là. C'est pas automatique. C'est révélé par les enseignements, par les révélations du Saint-Esprit. On apprend à connaître la pensée de Dieu. C'est extraordinaire, ça, quand on rentre dans cette dimension-là. Puis c'est à ça qu'on est appelé. C'est ça que ça nous dit, ce passage-là. Avant même les siècles, avant même le début de la création, Dieu, il avait destiné les gens à recevoir cette sagesse-là, cette révélation-là de son plan puis de sa volonté. C'est extraordinaire. On fait partie de son plan et de sa volonté. C'est nous, ça. Dieu a préparé ça d'avance, avant la création. Dans Colossiens 1:9, ça nous dit, c'est pour cela que nous aussi, depuis le jour que nous avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. La sagesse et l'intelligence spirituelle, la sagesse spirituelle et l'intelligence spirituelle, ça se reçoit après que tu aies compris la volonté de Dieu. C'est ça que ça nous dit dans ce verset-là. Faut premièrement que tu aies une connaissance de Dieu. Après ça, tu vas pouvoir marcher d'une sagesse et d'une intelligence spirituelle. Faut que tu commences par connaître. Puis là, Paul, il dit, nous prions afin que vous connaissiez, puis que là, après, soyez remplis de sagesse et d'intelligence spirituelle. On n'est pas né avec ça. Quand une personne est devenue sage en Jésus, là, c'est quelqu'un qui a une maturité, qui a eu un cheminement dans la prière, dans la méditation de la parole, puis que Dieu lui a révélé sa parole, puis il a fait comprendre les choses, puis là, le gars commence à vivre des choses. C'est là que la sagesse et l'intelligence spirituelle embarquent, après que tu aies compris les choses. Puis ça, Paul il dit, je prie Dieu pour que vous puissiez l'avoir. Même parmi les chrétiens, c'est pas automatique. C'est pas tout le monde qui a la sagesse de Dieu, la sagesse spirituelle. Ça s'obtient avec l'usage, avec la communion avec le Seigneur, avec les révélations du Seigneur. Puis là, après ça, ça commence à être mis en pratique. Là, le savoir-vivre, la vie chrétienne, le savoir-faire, s'approfondit avec le temps, puis de la prière. C'est ce qu'on est appelé, tout le monde, à vivre. On est tout appelé à arriver à connaître le plan de Dieu, puis à vivre ce plan-là. Puis Dieu nous en a donné, de tout ça, de cette sagesse-là, dans son Saint-Esprit. Puis c'est 2 Timothée 1:7, c'est ce qu'on voit. C'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fait que l'esprit, c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Fait que là, si on veut être rempli de toute la sagesse de Dieu, mais il faut se laisser remplir de ce Saint-Esprit-là, qui est un esprit de sagesse, puis là, il a laissé nous enseigner pour nous amener à... Tout ça, c'est un cheminement pour y arriver. Qu'est-ce qu'on fait quand on reçoit de la révélation de Dieu puis qu'on commence à rentrer dans la sagesse de Dieu? Bien, il arrive des situations où les gens se posent des questions, puis tu es capable de donner une parole qui va être une parole sage, qui va amener les gens dans la sagesse de Dieu, dans la sagesse d'en haut, pour que les gens comprennent le plan de Dieu. On est tous appelés à être comme ça. Tous les chrétiens peuvent dire des paroles de sagesse spirituelle. Si on réalise ce qu'on a appris, là, puis on l'explique aux autres, On est en train de partager notre sagesse spirituelle. Ce qu'on a appris de Dieu, on le transmet. Fait qu'en réalité, excusez, sur ce côté-là, tous les chrétiens peuvent avoir des paroles de sagesse spirituelle qui est le résultat de leur maturité dans le Seigneur. T'as appris, t'as connu, tu vis des choses avec le Seigneur, t'es capable d'expliquer ce qui est le meilleur pour les gens en donnant des paroles qui est le résultat de notre communion avec le Saint-Esprit. Mais c'est pas le don des paroles de sagesse. Même si on peut vivre la sagesse de Dieu, puis qu'on peut l'expliquer et partager aux autres la sagesse spirituelle de Dieu, mais c'est pas le don spirituel. Là, on va arriver dans le don spirituel, qui est les paroles de sagesse. C'est une sagesse surnaturelle. On va voir que là, l'autre aussi, la sagesse spirituelle, c'est surnaturel, parce que ça vient pas de nous, ça vient du Saint-Esprit. Puis tout le monde le vit. Mais les paroles de sagesse, c'est surnaturel et complètement, c'est encore distribué par le Saint-Esprit, mais on va voir l'application, on va voir que c'est des moments précis, le Saint-Esprit parle pour donner une révélation sur une décision qu'on a à prendre. Puis c'est le Saint-Esprit qui donne la révélation pour une chose spécifique, dans un moment spécifique, même si celui qui parle ne comprend pas pourquoi il dit ça, mais il dit la chose, puis ça répond. On va voir des exemples. Premièrement, pour l'expliquer, la sagesse surnaturelle que l'apôtre Paul cite parmi les dons spirituels, là, c'est la révélation partielle de la façon dont Dieu veut faire les choses. Parce que là, on arrive, mettons, dans une situation, on a besoin d'une réponse, savoir qu'est-ce qui serait le mieux de faire, puis on a besoin d'une réponse de Dieu, là, pour un besoin spécifique. On veut savoir de quelle façon Dieu voudrait que je fasse telle chose. Mettons un exemple, là, dans le temps que Richard, il voulait vendre sa maison à Saint-Chrysostome, puis là, il se demandait qu'est-ce qu'il était pour faire, il m'a posé la question, j'ai donné une réponse, fais ça, puis dans tant de temps, tu vas vendre ta maison. J'ai dit ça de même, puis c'est arrivé exactement comme ça. Je sais pas s'il s'en souvient, mais moi, je m'en souviens. Il fallait qu'il fasse une chose, puis ça s'est vendu dans tant de temps. Mais ça, c'est une parole que le Saint-Esprit donne pour répondre à quelqu'un dans un moment précis, puis ça fait que le résultat de Dieu va se faire, comme ça a été dit. La sagesse de Dieu consiste dans le savoir-faire de Dieu pour le meilleur moment, le meilleur endroit ou la meilleure façon de faire ou de dire les choses. Puis ça, ça prend, là, mettons, on aura 2-3 choix dans notre analyse personnelle, mais il faut connaître le choix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut que je fasse comme décision? Mais là, ça prend une révélation de Dieu. Puis quand tu l'as, c'est ça qui est une parole de sagesse. On commence à voir ça dans Matthieu 10, 19. Jésus a commencé à expliquer cette chose-là quand il dit, « Mais quand qu'on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car c'est pas vous qui parlerez, c'est l'Esprit de votre Père qui parlera en vous. » Ça veut dire, quand j'allais être en prison, là, ou être passé en cour à cause de mon nom, cassez-vous pas la tête ce que j'aurais à dire. Il dit, c'est le Saint-Esprit qui va vous donner les paroles spécifiques pour le moment qui vont être besoin là. Ça naît des paroles inspirées par le Saint-Esprit. Jésus, il nous enseigne là-dessus. Un autre fait qu'on voit d'un exemple de ça dans Actes 6, 8. Ça nous parle d'Étienne. Que Étienne, plein de grâce et de puissance, il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Lui, c'était un gars qui était rempli du Saint-Esprit. Quelques membres de la synagogue dite des Effranchis et celle des Cyréniens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui, mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Tu sais, Jésus, dans ses enseignements, avait dit à ses disciples, « Inquiétez-vous pas quand vous allez être pris, pour vous aurez à dire des messages, inquiétez-vous pas que vous allez avoir à dire, ça va vous être donné par le Saint-Esprit des paroles spécifiques pour ce moment spécifique-là. C'est ce que Étienne a vécu. Les gens ne pouvaient pas résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Le Saint-Esprit parlait à travers d'Étienne, il donnait des paroles aux gens, puis les gens étaient estomaqués, ils ne pouvaient pas rien redire à ce qu'il disait. C'était les paroles qu'il fallait qu'ils soient dites dans le moment précis, c'était des paroles de sagesse, révélées par le Saint-Esprit. Puis c'était poussé par le Saint-Esprit, puis ça faisait l'impact que ça devait faire. Un autre moment, Jésus répond à du monde quand c'est à propos de la parabole dans Marc 12, 15 qui parle du paiement de l'impôt à César. Devons-nous payer ou pas payer? Jésus, connaissant leurs hypocrisies, il leur répondit, « Pourquoi me tentez-vous? Apportez-moi un denier afin que je le voie. » Il apporte un denier. Jésus lui demande, « De qui sont cette effigie, cette inscription? » Il dit, « De César, répondirent-ils. » Alors il leur dit, « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Puis ils furent à son égard dans l'étonnement. Ça, c'est encore une manifestation d'une parole de sagesse poussée par le Saint-Esprit dans un moment précis. Il était tendu dans un piège. Puis là, s'il aurait répondu une parole pas tout à fait juste, « Je dois-tu payer l'impôt? » S'il aurait dit non, je payais plus l'impôt, il aurait arrêté voir les Romains. Il dit aux autres de pas payer l'impôt. Puis si après ça, il aurait dit, tu sais, il essayait de tendre un piège à Jésus. Jésus, fallait qu'il y ait une parole poussée par le Saint-Esprit pour lui boucher le bec, puis c'était exactement la meilleure parole qu'il pouvait pas lui dire. C'est ça une parole de sagesse, donnée dans un moment précis, puis ça a son impact. Une autre parole de sagesse qu'on voit, c'est Jésus qui répond au sujet de la femme adultère. Dans Jean 8, le verset 4, quand il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Mais toi, que dis-tu? » Il disait cela pour l'éprouver. C'est encore une autre épreuve qu'il faisait faire, la même chose que l'autre. Afin de pouvoir l'accuser. Hein, ça le dit bien, là. C'est une épreuve pour l'accuser. Il cherchait une faille dans sa parole pour l'accuser. Mais Jésus s'étant baissé, il criait à terre. Là, il devait être en train de prier. Mais comme qu'il continuait à l'interroger, il se releva puis il leur dit que celui qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et s'étant retourné, de nouveau baissé, il écrivait à terre. Quand qu'il entendirent cela, accusé par leur conscience, le Saint-Esprit en mettant de la culpabilité dans leur cœur, ben c'est lui qui convainc de péché. Fait que là, ils sont accusés dans leur conscience. Ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec elle, avec la femme qui est au milieu. Voyez-vous, là, une autre belle parole, bien placée, poussée par le Saint-Esprit, ça a un impact, puis il a été dégagé de son piège.
C'était la réponse parfaite.
C'était la réponse parfaite, la réponse de Dieu, poussée par le Saint-Esprit. On va voir une autre petite histoire, ça sera pas bien long, j'achève. C'est l'histoire de Paul quand il a fait son naufrage. Dans Actes 27, le verset 9. Là, ça nous explique un peu l'histoire du naufrage. Un temps assez long s'était écoulé et la navigation devenait dangereuse, car l'époque même du jeûne était déjà passée. C'est pourquoi Paul avertit les autres en disant, puis Paul, il n'était pas en position d'expliquer quoi que ce soit à personne, parce que sur ce bateau-là, il y avait les propriétaires du bateau, les marins aussi, il y avait des soldats romains et des prisonniers, dont Paul est un prisonnier. Puis là, Paul, il s'en vient lui dire son opinion. Fait que la première chose qu'ils ont faite, ils n'ont pas écouté son opinion. Là, il leur dit, « Ô homme, je vois que la navigation ne se fera pas sans péril et sans beaucoup de dommages, non seulement pour la cargaison et pour le navire, mais encore pour nos personnes. » Là, Paul, là, il venait dire une parole de révélation du Saint-Esprit. Il leur dit d'avance que ça ne sera pas sans péril. Le centenier écouta le pilote et le patron du navire plutôt que les paroles de Paul. Mais ce n'était pas les paroles de Paul, c'était les paroles du Saint-Esprit. Là, un peu plus loin, ça c'est au verset de 9 à 11. Après ça, au verset 21, là, ça explique un peu le problème qu'ils ont rencontré. Puis là, il dit, on n'avait pas mangé depuis longtemps. Alors, Paul, se tenant au milieu d'eux, leur dit, ô homme, il fallait m'écouter. Là, il leur ramène. Oubliez pas, je vous l'ai dit, il fallait m'écouter. Et ne pas partir de Crète afin d'éviter ce péril et ce dommage. Parce que là, là, c'était le bateau, puis ça coûte cher, un bateau, là. C'est pas une chaloupe, là, à 300$, là. Un bateau, là, ça, c'était le salaire d'une vie, ça, là, là.
Ça
veut
dire
que
c'était un gros bateau, parce qu'il était 276.
Ouais, c'est un gros bateau. Un gros bateau, 276, ça a duré des mois, ça, là, là. Mais peut-être qu'en temps normal, quand il n'y a pas de tempête, ça aurait été bien plus court de faire la traversée. Mais quand même, là, ça faisait 14 jours, là, je pense, qu'il n'a pas mangé, on va le voir. Ça dit que ça faisait un mois, là, mettons, là, qu'ils sont sous l'eau, là. Ils ont arrêté à plusieurs places, là, puis ils s'en vont ailleurs. Puis c'est avec un bateau de 275 personnes, avec la nourriture pour vivre ce temps-là, là. C'est un gros. Là, Paul, il lui dit encore, il fallait m'écouter, puis on aurait évité ce péril. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car là, il y avait eu une autre révélation. Aucun de vous ne périra, puis il y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et qui je sers m'est apparu cette nuit. Il m'a dit, Paul, ne crains point, il faut que tu comparaisses devant César. Puis voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. C'est pourquoi, ô homme, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Là, il y avait une révélation de Dieu. L'apôtre Paul a eu une révélation de Dieu, révélée par un ange. Puis il a été exaucé aussi, parce que c'est sûr et certain, Paul, il s'attendait à un naufrage, puis même un risque, un péril pour les vies. Entre moi et vous, il devait prier que Dieu épargne leur vie. Ça le dit pas dans le texte, mais c'est sûr. Fait que là, eux autres, là, ils n'ont pas écouté Paul, puis là, ils disent, j'aurais dû m'écouter, mais il y a un ange qui m'a été envoyé, qui me dit que toute leur vie m'ont été données. Toutes vos vies vont être épargnées à cause de moi. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit, et voici, Dieu t'a donné tous ceux qui naviguent avec toi. Ça veut dire que Dieu avait donné à Paul tous ceux qui naviguent avec lui. Ça veut dire que Paul a été exaucé dans ses prières. Puis tous les gens qui ont été là ont été sauvés par les prières de Paul. Puis là, on voit un petit peu plus loin. Là, là, il se fait deux paroles de sagesse, de révélation, qui sont données aux gens sur le bateau. Puis là, la première fois, il ne voulait rien écouter. La deuxième fois, là, il avait plus de choix, parce que ça faisait un bon bout que ça dit. On n'avait pas mangé depuis longtemps. Puis là, il lui dit encore que là, vous allez juste vos vies qui vont être épargnées parce qu'ils m'ont été donnés. Tu penses-tu que le monde qui écoutait, qui n'était pas attentif aux paroles de Paul, qui parlait avec assurance, puis qui dit, moi, il y a un ange qui m'a apparu pour vous dire que vos vies vont être épargnées si vous faites ce que je vous dis. C'est ça qu'il lui dit. Oui, parce qu'après ça, ils ont voulu prendre la chaloupe, puis il dit, s'ils s'en vont avec la chaloupe, vous ne pourrez pas être sauvés. Ils ont coupé la chaloupe, puis ils ont laissé tomber la chaloupe, puis en restant le bateau, ils commençaient à écouter. Dans la crainte de heurter contre les récifs, au verset 29, ils jetèrent quatre ancres de la poupe, ils attendirent le jour avec impatience, mais comme les matelots cherchaient à s'échapper du navire en mettant la chaloupe à la mer sous prétexte de jeter les ancres de la proue, Paul dit aux centeniers, aux soldats, « Si ces hommes ne restent pas dans le navire, vous pouvez pas être sauvés. » Alors les soldats coupèrent les cordes de la chaloupe, puis ils laissèrent tomber. Après que le jour parut, Paul exhorta tout le monde à prendre de la nourriture en disant, « C'est aujourd'hui le 14e jour que vous êtes dans l'attente et que vous persistez à vous abstenir de manger. » Ça faisait 14 jours qu'il était ballotté par la pluie, le vent, la tempête, le froid, puis la crainte de mourir. Puis là, le vie est en suspens. Il dit, « J'invite donc à prendre de la nourriture, car cela est nécessaire pour votre salut. Vous voulez survivre? » Non seulement faut vous m'écoutiez qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est les paroles de Dieu, pas en plus manger de la nourriture, c'est nécessaire à ce que vous puissiez être en vie. Il ne se perdra pas un cheveu de la tête d'aucun de vous. Ayant ainsi parlé, il prit du pain, et après avoir rendu grâce à Dieu devant tous, il rompit, il se mit à manger, et tous, reprenant courage, mangèrent aussi. Là, on voit que la puissance de la parole de sagesse, d'inspiration du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça a eu comme effet dans le cœur de 275 personnes qui étaient là sur le bateau? En premier, vous ne l'avez même pas l'écouté, Paul. La deuxième fois, waouh, là, ça fait 14 jours, là. Puis là, après ça, là, le lendemain, là, ils étaient tous prêts à faire ce que Paul disait, puis ils ont tous eu du courage, ils sont remis à manger, puis ils ont sauvé leur vie, si on lit le reste de l'histoire, ils sont arrivés sur une île, puis même si le bateau était complètement détruit, Dieu il a béni ce groupe-là de 275 personnes, ils ont resté 3 mois sur cette île-là, avant de repartir après ça, après le printemps. Puis Dieu les a bénis, puis les gens ont été comblés à cause que Dieu a manifesté aussi des signes, des prodiges et des miracles dans ce style-là. Ouais. Voyez-vous les paroles de sagesse? Qu'est-ce qui serait la meilleure chose à faire? Mais lui, il l'avait dit, il serait mieux qu'on reste sur le quai, on ne devrait pas sortir. Ils n'ont pas écouté la sagesse de Dieu. Mais après ça, il écoutait. Voyez-vous la puissance des paroles inspirées par le Saint-Esprit? Là, vous venez de voir ce soir comme les trois directions de sagesse. La sagesse humaine, la sagesse d'en haut, la sagesse spirituelle, puis la sagesse surnaturelle. La révélation de ce qui serait le plus sage de faire, poussée par le Saint-Esprit dans un moment précis. C'est ça le don spirituel de parole de sagesse. Une dernière exemple que je vous la lis pas, je vous dis juste où ce qu'elle est, c'est dans 1 roi 3, le verset 16. C'est lorsque le roi Salomon, les deux femmes qui sont arrivées, puis il y avait un seul bébé, puis il y avait deux femmes, puis il y a une femme qui disait, « C'est mon bébé! » L'autre disait, « Non, c'est mon bébé! » Les deux disaient, c'était leur bébé, puis que l'autre bébé mort, c'était le bébé de l'autre. Tu sais. Là, qu'est-ce que Salomon était obligé de faire pour pouvoir trancher la question? Il y a eu une parole inspirée de Dieu. Il a dit, amenez-moi le bébé. C'est celui-là le bébé. Coupez-les en deux. L'une qui a dit, non! Puis l'autre a dit, oui, coupez-les. Mais il dit, donnez-y à elle, c'était elle, la mère de... Mais ça, c'est une révélation d'une parole sage. Qu'est-ce qui était la meilleure parole à dire pour trouver la solution du problème? Il l'a eu, c'était des paroles de sagesse.
Il y en a une qui mentait devant Dieu aussi là-dedans.
Une qui mentait, puis l'autre qui était vraie. Mais même la celle qui était vraie, elle n'aurait jamais voulu couper son bébé pour en donner la moitié à l'autre.
Oui. Bébé à l'autre,
oui. L'autre, ça ne le dérangeait pas, il était prêt à loin mourir. Tu vois comment est-ce que la nature humaine allait. Mais tout ça pour dire ce que je veux en venir. Quand on recherche les dons spirituels, qu'on veut que Dieu se manifeste, il faut croire que Dieu peut donner des paroles qui sont un des dons spirituels donnés par le Saint-Esprit, de voir dans des situations précises la meilleure affaire à faire. Il faut la demander à Dieu, puis s'attendre à ce que Dieu donne une parole. Il peut nous la donner direct ou la donner à quelqu'un d'autre. Quand on demande à Dieu, il faut être à l'écoute. Pas faire comme ceux qui écoutaient l'apôtre Paul, puis ne pas l'écouter. Mais tandis que les autres fois, après ça, ils ont vu que c'était vrai, ils écoutaient, puis là, ils étaient attentifs, ils ont tout fait ce qu'il a dit. Puis là, ils ont été sauvés. Mais il faut demander à Dieu de nous diriger puis de nous donner ces meilleures paroles-là. Prions. Père, je te remercie pour ta parole puis tous les beaux versets qui sont là, Seigneur, ça fait du bien, ça nous éclaire puis ça nous donne ta révélation, Seigneur, sur ces sujets-là. Seigneur, il y a une chose que je remarque, c'est que on veut pas marcher selon la sagesse charnelle et diabolique, on veut marcher selon la sagesse d'en haut qui est pure, pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits. Seigneur, qu'on puisse marcher selon la sagesse inspirée par ton Saint-Esprit, tous les jours, et en même temps, Seigneur, dans nos choix, dans nos décisions, dans ce qu'on a à prendre comme décision, je te demande de nous donner ta révélation. Dans chacune des décisions qu'on a à prendre, qu'on prenne des décisions inspirées par ton Saint-Esprit afin de faire ce que tu veux qu'on fasse dans ces moments précis-là. Nous remettons nos vies entre tes mains, Seigneur. Et je te prie aussi, Seigneur, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés du Saint-Esprit. Je te demande de mettre ton feu en eux. Et ceux que ça s'est éteint, Seigneur, qu'ils puissent être animés, Seigneur, réallumés, pour qu'ils puissent bouillir pour toi, Seigneur, enflammés du feu du céleste, qu'on puisse être remplis, revêtus de cette puissance et marcher en communion avec ton esprit. Nous remettons nos ventres à tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.